Et à 8h, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ils retrouvent une partie de leurs camarades de classe aujourd'hui, mais en respectant une certaine distance. Encore 1,5 million d'élèves de maternelle et du primaire reprennent le chemin de l'école à partir d'aujourd'hui. Reprise partielle, vous l'entendrez. Priorité donnée aux décrocheurs scolaires. Encore faut-il que les maires suivent les recommandations du gouvernement. Dossier complet dans un instant.
Les maires qui auraient aimé être davantage écoutés par l'exécutif pendant et après le confinement, nous irons à Sceaux, en région parisienne. Dans ce journal.
À suivre également la réouverture des librairies très attendues par les lecteurs et les 3300 librairies indépendantes de France.
Et puis le travail ou la santé, c'est le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses personnes aux États-Unis, en Grèce, vous l'entendrez.
Est-il possible de poursuivre en justice les élus pour une mauvaise gestion de cette crise sanitaire? La législation vient d'être modifiée. Précision dans le billet politique de Frédéric Seyss juste après ce journal. À partir d'aujourd'hui, ils sont donc 1,5 million à retourner sur les bancs de l'école. Mais au compte-gouttes, une rentrée scolaire partielle pour un élève sur cinq de la maternelle au primaire. Il faudra se laver les mains encore plus souvent, ne pas se toucher, comme l'explique Charlotte Bousquet, directrice de l'école maternelle dans la petite commune de Négronde, en Dordogne.
On va respecter le protocole qui nous a été fourni. Comme vous pouvez le voir, il y a des marquages au sol. Dans les classes, on a mesuré pour mettre en place les tables à 1 mètre les unes des autres. Donc voilà, on va utiliser ces outils. Et puis surtout, on va bien communiquer avec les enfants.
Charlotte Bousquet, directrice d'école à Négronde, en Dordogne, au micro de Xavier Dalmont de France Bleu Périgord. Alors, quand ce jour de rentrée partielle, beaucoup d'écoles n'accueilleront au maximum que 10 élèves par classe. Priorité est donnée aux élèves de CP, CM2, de grande section de maternelle, aux élèves qui sont en situation de handicap, à ceux dont les parents exercent des métiers indispensables et aux enfants en difficulté. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, estime à 5% le taux de décrocheurs, Hakim Kasmi.
Fracture numérique, problèmes économiques, autant de raisons qui peuvent expliquer le décrochage en zone d'éducation prioritaire. Du coup, Marie, professeure en CE1, en région parisienne, en zone d'éducation prioritaire, n'a pas hésité à donner en plus des cours particuliers pour aider ses élèves les plus en difficulté.
Je fais des visioconférences régulièrement avec tout le monde, mais j'ai un groupe d'élèves que je prends plus souvent dans la semaine pour essayer de les raccrocher, parce que je me suis rendu compte avec ces 5-là que si je les prenais pas en visioconférence, pratiquement rien n'était fait.
Des cours particuliers qui, hélas, ne suffiront pas à rattraper les retards de lecture accumulés pendant le confinement, selon Marie.
C'est des élèves qui étaient déjà faibles au niveau lecture avant le confinement. Et là, je le sens dans les visioconférences que je fais, que la lecture pose un gros problème. Et quand la lecture est difficile, et ben après, c'est tout le reste qui est difficile, le moindre exercice, quel qu'il soit, demande des capacités de lecture. Et donc après, on est vite bloqué à ce niveau-là quand la lecture est trop difficile.
Cette reprise partielle doit surtout permettre de mieux préparer la rentrée de septembre, estime Anne Peter, coprésidente de la FCPE 93.
De toute façon, on sait bien que le virus, il va pas avoir disparu au 1er septembre. Donc on a à réfléchir une organisation qui va s'installer dans la durée et dont mai et juin ne sont que les prémices de ce qui se passera à la rentrée.
En zone d'éducation prioritaire, le nombre de décrocheurs a atteint les 30%.
Et Benoît Teste, de son côté, le secrétaire général du SNUIPPFSU, le principal syndicat du primaire, regrette, lui, un déconfinement à marche forcée.
Nous pensons que cette date qui n'est pas corroborée par les scientifiques est prématurée. Et c'est parce qu'elle est prématurée que tous les protocoles de reprise, finalement, sont très exigeants, ce qui est une bonne chose et qu'on a exigé nous aussi, d'avoir des garanties sanitaires extrêmement précises et exigeantes, mais jusqu'à parfois créer des situations impossibles. Et il faut le dire très clairement, il faut que ce soit dit au plus haut niveau, il va y avoir des situations où la reprise ne sera possible qu'en mode très dégradé. Et nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de pression, pas d'injonction inutile sur les personnels, pas de pression par exemple pour qu'on accueille ce 11e élève dans une classe qui ne peut en contenir que 10. Et on note aujourd'hui une forme de chantage à l'héroïsme que certains cadres répercutent sur les agents, et ça n'est pas acceptable. L'éducation, ça fait circuler beaucoup de monde, c'est des personnels, des familles, des élèves, et ça regroupe beaucoup de monde au même endroit pendant toute une journée. Et donc il y a un enjeu particulier qui est un enjeu d'intérêt général. Nous ne disons pas les choses aujourd'hui pour ce qui nous concerne nous seuls, c'est un enjeu pour l'ensemble de la population et donc pour les écoles.
Benoît Test, le secrétaire général du SNUIPP FSU, dossier signé Hakim Kasmi. Le temps des pique-niques et des rassemblements pour l'apéro n'est pas encore venu. C'est la déclaration hier soir de la maire socialiste du 10e arrondissement de Paris, alors qu'il était impossible de faire respecter les règles sanitaires en fin de journée le long du canal Saint-Martin à Paris. Des rassemblements festifs, des apéritifs, mais peu, voire pas de masques. La police a dû intervenir à plusieurs reprises. Le retour à la vie d'avant n'est pas pour tout de suite, mais cette première étape du déconfinement vers un retour à la normale est tout de même enclenché depuis hier. Et pour gérer ces aspects pratiques, ce sont les maires qui se retrouvent en première ligne. Exemple à Sceaux, une commune de près de 20 000 habitants dans les Hauts-de-Seine, où s'est rendue Rosalie Lafarge.
Les petites boutiques du centre-ville rouvrent les unes après les autres, mais l'atmosphère reste particulière.
On a le gel hydroalcoolique, on a de quoi nettoyer tous les appareils de carte bleue.
Dans les commerces de Sceaux, on a surtout des masques distribués par la mairie.
Ça gêne beaucoup pour la vue, je trouve, mais bon, à part ça, on va s'habituer.
Mais il n'y a pas que les commerçants qui sont masqués ici. De très nombreux habitants le sont aussi dans les rues.
Ils sont nombreux, oui, certainement plus nombreux qu'ailleurs.
Et Philippe Laurent n'y est sûrement pas pour rien. Le maire UDI de Sceaux a tenté de rendre obligatoire le port du masque dans sa ville. Son arrêté a été retoqué, mais à défaut d'avoir pu l'imposer, il en a distribué à tout le monde.
Pendant des semaines, le gouvernement a refusé de dire que c'était un geste important. J'ai remarqué d'ailleurs avec intérêt que depuis ce week-end, le port du masque figure parmi les gestes barrières. Il a été ajouté à la communication gouvernementale discrètement.
Il aurait pu le faire plus tôt s'il avait entendu les maires, souligne l'élu également secrétaire général de l'Association des maires de France. Une fois de plus, pour Philippe Laurent, l'État s'est déconnecté à tort de l'échelon local.
Ce qui est gênant, c'est que parfois, des principes qui sont énoncés au plus haut niveau ne le soient pas après avoir concerté avec nous. Je prends un exemple. Cette date du 11 mai n'a jamais été discutée. Il aurait été nécessaire auparavant de savoir si c'était possible, quelles étaient les conditions, etc. Nous, les maires, on sait ce qu'on est capable de faire.
Et si dans un premier temps, il va falloir relever les défis pratiques du déconfinement, de la réouverture des commerces hier au retour de certains enfants à l'école jeudi, dans un second temps viendront les questions plus politiques. Pour le maire de Sceaux, il faudra se poser celle de la répartition des pouvoirs entre le national et le local.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu avec une bonne nouvelle pour les lecteurs. Les quelques 3300 libraires indépendants de France peuvent enfin accueillir de nouveau leurs clients dans les rayonnages.
Dans un secteur économiquement fragile, les ventes de livres ont baissé de 33% au mois de mars, d'après le Centre National du Livre. La réouverture était donc très attendue à l'issue d'une période de confinement qui aura permis d'éprouver les liens très forts qui unissent bien souvent lecteurs et libraires. L'occasion aussi de se poser un certain nombre de questions sur l'avenir du secteur. Illustration dans une librairie fonctionnant depuis 2014 sous forme de coopérative de salariés. Il s'agit des Volcans à Clermont-Ferrand. Le reporter de Benoît Bouscarel.
Gel hydroalcoolique à l'entrée, masque obligatoire et distance de sécurité, les contraintes sont lourdes mais finalement bien acceptées par des clients ravis de retrouver le chemin des livres.
Bien sûr, on en a des tas, on en a relu, mais quand même un peu de nouveauté, ça fait un plaisir immense.
Comme Evelyne hier, de très nombreux clients sont venus témoigner de cette urgence à retrouver les rayonnages, urgence bien ressentie aussi côté librairie après la perte de 850 000 euros de chiffre d'affaires en deux mois. Martine Lebeau est la gérante des Volcans.
Ça serait au mois de décembre, ça pourrait être 1,2 million, 1,3 million pour un mois. Donc ma seule crainte à l'heure actuelle, c'est effectivement qu'il y ait une deuxième vague et qu'on soit obligé de reconfiner.
Depuis la réouverture de la librairie en 2014, la création d'une plateforme de vente en ligne est envisagée qui permettrait de lutter contre la tentation qu'ont pu avoir certains fidèles, Émilie l'avoue, de passer commande chez un géant du web.
Il y a eu la tentation et après je me suis dit bon non, je veux faire travailler les Volcans et cette librairie indépendante.
Ça fait 6 ans que l'on dit qu'on va mettre notre site marchand en route.
Martine Lebeau.
Chaque fois on repousse parce qu'on veut que les gens viennent. C'est l'essence même de notre métier. On n'est pas des vendeurs en un clic. Mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être des publics là qui ne viendront pas forcément facilement en librairie.
Dans la réflexion sur les différentes façons de s'adapter à un avenir incertain, les salariés associés des Volcans se posent beaucoup de questions, mais certainement pas celles de l'abandon du statut de coopérative. Olivier Cueil est responsable de la communication.
La nouvelle clientèle, cette jeunesse qui aujourd'hui vient depuis 2-3 ans, sait que nous sommes une coopérative. Et je crois que l'agrégat de ces anciens clients qui ont déjà été des militants associés à cette jeune clientèle qui se soucie de ce nouveau modèle économique, ça fait qu'il y a une solidarité qui nous incite à croire en l'avenir.
Un avenir qui pour l'instant va consister à s'adapter pour les Volcans comme pour tous les libraires indépendants à des programmes de parution réduits de moitié.
Et pour venir en aide au secteur et notamment aux librairies indépendantes, le syndicat de la librairie française plaide pour la création d'un fonds de soutien d'urgence de 20 à 26 millions d'euros pour compenser les charges fixes, loyers, fiscalité qui sont restées à la charge des librairies durant les deux mois de confinement. À noter, le ministre de la Culture, Franck Riester, sera l'invité d'Emmanuel Laurentin dans le temps du débat ce soir à 18h10 sur France Culture. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer partiellement deux dispositions de la loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet sur le traçage et sur l'isolement. Les organismes sociaux n'auront pas à avoir accès aux données médicales des malades et de leurs contacts récoltés par l'assurance maladie. Et puis un juge des libertés devra contrôler la mise à l'isolement des personnes arrivant en France. Un grand plan Marshall pour le tourisme a été annoncé hier soir par le directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque des territoires. Ce plan vise à soutenir tous les acteurs du tourisme, du parc d'attractions à la petite association. Le secteur bénéficie déjà d'un prêt garanti par l'État pour un montant de 4 milliards d'euros. Des aides encore et le gouvernement qui va procéder à des exonérations de cotisations sociales pour les TPE et les PME du secteur viticole les plus en difficulté. Le gouvernement met en place un dispositif de distillation de crise de 140 millions d'euros, a annoncé hier soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bercy, qui travaille par ailleurs sur des plans de soutien, en plus des aides et prêts déjà consentis pour trois secteurs économiques, l'aérien, le tourisme et l'automobile. Pour l'automobile, justement, Bruno Le Maire a émis quelques conditions hier au soutien de l'État et cela passe par des relocalisations de production en France, Marie Viennot.
Je pense que l'industrie automobile française a trop délocalisé.
Espagne, Maroc, Slovénie, Chine, bien sûr. Les marques françaises de voitures ont beaucoup créé d'usines en dehors de l'Hexagone ces dernières années et Bruno Le Maire s'en était déjà ému début décembre. Il avait d'ailleurs demandé à un expert du secteur d'évaluer avec les constructeurs comment maintenir et relocaliser l'activité automobile qui fournit actuellement 800 000 emplois directs en France. Ce qui change avec le coronavirus, c'est que les constructeurs automobiles ont besoin d'un plan de soutien rapide. On parle de prime à la conversion, de baisse des impôts de production. Et ce qui change aussi, c'est que l'État a la pression de l'opinion pour ne pas distribuer d'argent public sans condition. Relocaliser, l'idée fait donc sens, mais se heurte à quelques freins opérationnels, prévient David Kousker, patron de Trendéo, un observatoire de l'industrie.
Si tout le monde veut relocaliser d'un coup, on va manquer de main-d'œuvre. On l'a vu avec la reprise lente de l'industrie depuis 2016. Dès que ça repart un petit peu, on commence à avoir dans beaucoup de secteurs industriels des difficultés de recrutement. Après, il y a des questions foncières également, c'est-à-dire que les sites automobiles d'intégration finale sont des sites de grande surface, et c'est des sites qu'on trouve difficilement aujourd'hui. Et puis la délocalisation, c'est tout un tissu de sous-traitants complexes qui est délocalisé, pas seulement des sites. Et donc ça va prendre du temps à réorganiser éventuellement en sens inverse.
Quelle serait l'échéance fixée pour ces relocalisations? Pour le moment, le plan de soutien à l'automobile est en cours d'écriture. Bruno Le Maire et les acteurs de la filière doivent d'ailleurs se rencontrer encore cette semaine.
Direction les États-Unis à présent, où la Maison-Blanche a ordonné hier à l'ensemble du personnel entrant dans l'aile ouest où se trouve l'administration Trump de porter des masques dans le bâtiment après que deux membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus. Un militaire employé au service de Donald Trump et la porte-parole du vice-président Mike Pence. Les États-Unis qui ont franchi hier la barre des 80 000 morts. Les États-Unis qui ont enregistré 830 décès supplémentaires rien qu'en 24 heures. Mais le déconfinement a déjà commencé. À Savannah, par exemple, en Géorgie, cet état du sud des États-Unis a été le premier à se déconfiner il y a deux semaines, alors que pourtant, l'épidémie de coronavirus continue de frapper de plein fouet le pays. C'est le gouverneur républicain Brian Kemp qui a pris cette décision avec une volonté affichée, redémarrer au plus vite l'économie. Alors, comment ça se passe concrètement dans le port de Savannah, qui est également l'une des perles touristiques et historiques du sud des États-Unis? Le reportage de notre envoyé spécial, Grégory Phillips.
Sur la Savannah River, le Georgia Queen, bateau à roues typique du sud des États-Unis, est encore à quai et devrait reprendre ses croisières dans quelques jours. Mais les bars et restaurants du port sont désormais ouverts. Les tables sont à 1,80 m de distance, décrit Samantha, la patronne du Wild Wing Café. Chaque employé se lave les mains toutes les 30 minutes. On a un minuteur et chaque table est nettoyée aussi toutes les demi-heures. L'établissement a même commencé à réembaucher des serveurs. C'est le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, un républicain, qui a tenu à déconfiner rapidement. Et il l'a fait contre l'avis du maire de Savannah, un démocrate, inquiet de voir des centaines de touristes déambuler à nouveau dans les rues du centre historique. Le week-end dernier ressemblait presque à un week-end normal, constate Van Johnson. Et cela m'inquiète, car nous sommes toujours dans une situation d'urgence sanitaire jusqu'au 12 juin. Pourtant, depuis deux semaines, même les salons de coiffure ne désemplissent pas. Ici, le Barber Paul, coiffeur et client masqué. La semaine prochaine, dit la patronne Jenny, on saura si on a bien fait de rouvrir ou pas, si c'était risqué. Au début, je pensais que c'était trop tôt. On verra ce qui va se passer. En Géorgie, le nombre de cas de Covid-19 diminue depuis quelques jours, mais le virus a provoqué la mort de 1400 personnes et toutes les écoles publiques de l'État resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Grégory Philippe, envoyé spécial de France Culture à Savannah, en Géorgie, les États-Unis, qui ont enregistré par ailleurs hier un bond du taux de chômage de 3,5% en février. Ce taux est passé à 14,7% en avril. Et puis en France, le gouverneur de la Banque de France vient d'annoncer que la perte d'activité de l'économie française atteignait les moins 27% au mois d'avril. Un mot du temps de ce mardi 12 mai, toujours marqué par une vigilance orange pour pluie et orage dans les Landes et en Gironde, un temps plus calme mais frais dans le reste du pays, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses au fil des heures. Les températures seront comprises entre 12 et 15 degrés au meilleur de la journée dans la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 13 à 25 au sud.